Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Orales, le podcast qui s'intéresse aux secrets d'éloquence de professionnels à Bordeaux et parfois au-delà. Chaque mois, je pars à la rencontre d'orateurs et oratrices du quotidien en quête d'anecdotes insolites, d'outils pratiques et d'une bonne dose d'inspiration pour vous faire aimer prendre la parole en public. Comment envisager l'expression que l'on soit à la barre d'un tribunal, face à ses équipes ou devant un parterre d'inconnus ? Je suis David Jadar, formateur en prise de parole et entrepreneur. J'aide chaque année plusieurs centaines de professionnels à gérer leur trac et à s'exprimer de façon percutante en présentation. Installez-vous bien confortablement dans votre fauteuil et bonne écoute. Mieux te connaître, Léo, pourrais-tu te présenter en quelques mots aux auditeurs ?
Bien sûr, alors je m'appelle Léo Benelbaz, je suis animateur, technicien et réalisateur à Radio Campus Bordeaux. Donc c'est une radio associative qui se présente sur le campus de Montaigne, à Pessac. À côté de ça, comme tu l'as dit, donc je fais du théâtre d'improvisation dans une troupe semi-professionnelle, la Cigu. Et j'aime aussi la photographie, la randonnée, mais j'aime pas trop les araignées.
Alors j'aime bien le grand écart dans la présentation. J'ai vu aussi sur ton profil LinkedIn que tu parles de sémiologie, passionné de sémiologie.
Ah, oui.
Et t'as un parcours dans les médias aussi, je crois.
T'as, ah oui,
t'as écrit pour un canard.
Oui, tout à fait. Ah, c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas mis à jour ma fiche, notre petite description dans LinkedIn. Oui, tout à fait. Avant ça, quand j'étais, donc j'ai fait des études de sciences de l'information et de la communication, là pareil à l'université Montaigne. Et moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était l'étude des médias et surtout le journalisme. Moi, quand j'étais étudiant, je voulais être journaliste. Et même depuis tout petit, je voulais être testeur de jeux vidéo. Donc, être journaliste dans le domaine du jeu vidéo pour un magazine consacré à ça. Ça a toujours été une passion pour moi et je voulais vraiment en faire mon métier. Donc, de fil en aiguille et d'étude en étude et de stage en stage, j'ai pu faire un stage dans le magazine Canard PC, qui est consacré aux jeux vidéo sur PC et puis au hardware aussi, au matériel informatique. Ça a été les trois meilleurs mois de ma vie. J'ai rencontré des rockstars pour moi, des idoles. En fait, c'est des journalistes que je lisais depuis tout petit. Dans le magazine Joystick, que peut-être certains auditeurs connaissent, c'était un magazine qui était très connu dans les années 80-90. Et ensuite, les anciens de ce magazine ont formé Canard PC. Et c'était vraiment mon rêve de les connaître, de les rencontrer et puis d'intégrer cette rédaction-là. Donc vraiment, j'ai effleuré le temps d'un stage, un rêve d'enfance. Bon, finalement, la vie fait est-ce qu'elle est, donc on ne fait pas toujours ce qu'on veut, mais bon, j'ai toujours gardé cette petite satisfaction d'avoir côtoyé ces gens-là. Et donc, forcément, après le master, il fallait trouver quoi faire. Et comme à côté de mes études, j'étais bénévole à Radio Campus Bordeaux, où j'ai fait aussi un service civique après, je me suis dit, tiens, en fait, c'est vraiment ça qui me plaît. En fait, c'est la radio, dans une radio associative, avec le ton et la liberté qui va avec, et puis l'engagement associatif et les valeurs qu'on défend derrière, qui me plaît. C'était plus que travailler dans une radio, vraiment dans une radio associative avec cet aspect-là. Et donc aujourd'hui, voilà, je suis salarié à Radio Campus Bordeaux.
Ce que je trouve plutôt inspirant dans ton parcours, Léo, c'est qu'on dirait que tu as concentré un petit peu toutes tes passions sur ton CV. Tu parlais de faire du journalisme et de travailler dans le jeu vidéo. Aujourd'hui, tu es animateur radio, ce qui peut représenter une sorte de fantasme professionnel pour pas mal d'adolescents ou même d'adultes plus tard. Comment on devient animateur radio pour Radio Campus ? Qui ou qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier ?
Alors, c'est une vaste question, ça, David. Comment on devient animateur radio à Radio Campus ? J'ai envie de dire avec beaucoup de chance et tous les astres qui s'alignent, parce qu'on est une petite structure, donc on est quatre salariés. Et par chance, en fait, c'est depuis la rentrée 2021 que je suis salarié ici. Donc, moi, j'ai commencé la radio en tant que bénévole, c'était en 2011. Dis-toi, ça remonte. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Donc après, j'ai fait, comme je l'ai dit, un service civique. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment dans cette structure-là que je voulais. Mais malheureusement, il n'y avait pas de place, il n'y avait pas de départ. Et c'est avec un départ d'un précédent collègue que j'ai pu intégrer cette structure. Mais plus largement, parce qu'il n'y a pas que Radio Campus Bordeaux comme radio associative sur Bordeaux ou même en France, ce qu'il faut, c'est vraiment se présenter, postuler. J'avais envoyé plein de candidatures spontanées avant d'être à Radio Campus Bordeaux. et puis montrer ce qu'on sait faire et surtout montrer sa passion et son engagement associatif. C'est ça que je trouve chouette en fait avec les radios locales et associatives, c'est que ça va au-delà des compétences radiophoniques ou d'éloquence ou de journalisme. Ça dépend parce que toutes les radios recherchent des profils différents. Il y en a qui préfèrent des animateurs, il y en a d'autres qui recherchent des journalistes. Ça dépend. Ici à Radio Campus, on est polyvalent. C'est-à-dire que l'animateur fait du journalisme, fait de l'animation d'antenne et en même temps fait la technique. Donc ça fait une sorte de gymnastique de cerveau, tout ça en direct. Mais je ne sais plus où j'allais avec ça.
c'est pas très grave, mais voilà, c'est très clair.
Voilà, vraiment savoir montrer sa passion en fait, et savoir D'accord. ce qu'on peut, plus que pour une radio, savoir quoi apporter dans une association.
D'accord, donc tu as un petit peu un couteau suisse hein, chez Radio Campus, tu fais ton mixage, tu scriptes en amont de l'émission, évidemment tu animes une émission, je crois que c'est une quotidienne d'une heure, c'est ça ?
Alors de 2 heures.
De deux heures.
On est deux animateurs, enfin il y a une autre animatrice avec moi, on anime tous les jours 2 heures chacun, soit de midi à 14h, ça s'appelle Café Campus, c'est le magazine étudiant et d'actualité, soit de 17h à 19h, là c'est Passage et c'est le magazine culturel, donc là on va parler de cinéma, de musique, de BD, de jeux vidéo, tout ça. Donc en fait, on change. Moi, parfois, j'anime le midi ou tantôt j'anime le soir, mais il y a toujours les deux magazines tous les jours. Voilà.
Une question me vient, Léo. Quelle est la part de dîner, la part de construction du métier d'animateur radio ? Parce que t'as une voix. T'as une voix qui passe plutôt, qui est plutôt très radiophonique.
Merci.
Est-ce que tu vois là où je veux en venir ? Est-ce que t'as été choisi pour ta voix, entre autres ? Est-ce que c'était en partie inné ? Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour devenir bon animateur ? Comment tu t'es préparé à ce métier-là que t'as dû, j'imagine, apprendre ou perfectionner sur le tas ?
Alors, je vais commencer par le tout début. C'est-à-dire qu'au début, j'étais vraiment très timide. J'arrivais pas à parler en public. Enfin, pour moi, parler en public, c'était quelque chose d'impossible, voire d'inimaginable. Dans le cercle privé, j'étais très à l'aise. J'ai toujours fait plein de blagues avec mes frères, auprès de mes parents, auprès de mes amis. Mais dès qu'il fallait prendre la parole en public, c'était compliqué. Donc, franchement, il y a 10-15 ans, on me disait que je ferais de la radio et du théâtre d'impro, j'aurais dit oh, non, ça, c'est pas possible. Et en fait, j'ai commencé vraiment par hasard la radio, donc en tant que bénévole. J'avais un ami à la fac qui était bénévole à Radio Campus et il me dit, bah tiens, viens, ça te dirait pas de faire une émission de jeux vidéo avec moi ? Ce serait super vu qu'on avait cette passion en commun. Très timidement, j'ai dit, bah oui, moi j'ai envie de parler de jeux vidéo, mais je sais pas si à la radio je vais y arriver. Donc finalement, on vient, on fait un pilote. Donc un essai d'émission, et là je me rends compte qu'en fait devant le micro, j'arrive à rester naturel et à parler comme au quotidien avec mes amis ou des gens proches avec qui je suis à l'aise. Et je me rends compte que je ne suspectais pas ça, donc ça a été une première surprise pour moi. Mais pareil pour le théâtre d'impro, en fait je ne me voyais pas du tout faire du théâtre, me produire devant du public, et c'est de la même manière un ami qui m'a fait « mais viens tester le théâtre d'impro, tu vas voir, c'est génial, c'est hyper facile ». Et je me souviendrai toujours de mon premier atelier aussi, où en fait je fais l'exercice que le prof nous demande de faire, et de manière mais complètement naturelle, je me mets à faire des personnages complètement bariolés, etc. Et je dois avouer que pour le théâtre d'impro et la radio, je me suis surpris moi-même. C'est comme si vraiment mon inconscient prenait le contrôle et que c'était pas moi. Et finalement, cet inconscient a transformé mon conscient, et bah maintenant j'arrive à être super à l'aise devant un micro, en public, devant des assemblées, tout ça. Donc ça a vraiment été un gros, gros apport. Pour répondre à ta question initiale, excuse-moi, je fais beaucoup de digressions.
Non, c'est parfait.
Comment j'ai été pris ici, comment j'ai construit mon personnage, en tout cas ma voix de radio, j'ai envie de dire un peu par hasard, parce que j'avais pas vraiment de voix. Alors on parle jamais pareil devant un micro que dans la vraie vie. Moi, dans la vraie vie, j'ai plutôt une voix un peu plus aiguë comme ça. Mais quand il y a un micro, je sais pas, on se concentre et puis forcément on travaille à la radio avec un casque. Donc on entend sa voix et on travaille sa voix en direct. Quand on anime une émission en direct ou même enregistrée, on entend sa voix. Donc on se dit, bah tiens, comme ça, avec un timbre un peu plus grave, ça passe mieux. On se rend compte que même nous, c'est plus agréable à entendre. Donc on se dit, bah pour les auditeurs, c'est plus agréable et on est un peu plus captivé par cette voix. Donc à Radio Campus, ils m'ont pas pris parce que j'avais une voix ou quelconque talent, c'était surtout parce que j'étais motivé, j'étais impliqué dans l'association, j'avais envie d'aller plus loin dans l'animation d'émissions et dans le développement des activités radiophoniques de Radio Campus Bordeaux. Et ensuite, j'ai des collègues, j'ai un chargé d'antenne qui lui m'a un peu pris sous son aile, il m'a donné plein de conseils, il m'a formé aussi aux techniques de la radio, alors à l'éloquence, à comment on parle devant un micro, comment on règle la voix, les bonnes manières pour transmettre une information, le rythme aussi à garder, puisqu'on, voilà, il faut aussi captiver l'audience, il ne faut pas parler tout le temps d'un même ton, d'un ton monocorde, il faut rythmer une discussion à la radio pour la rendre vraiment intéressante et que les gens ne décrochent pas, ou que même nous-mêmes on ne décroche pas. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait vraiment par hasard et par passion.
Et est-ce qu'on peut expliciter davantage ces outils autour du rythme, autour ces astuces que on va l'appeler ton mentor de l'époque, t'avais...
il est toujours là. Hein.
Il est toujours là. T'avais donné. Est-ce que tu peux nous partager un outil ou une astuce qui t'ont beaucoup aidé?
Alors, je ne sais pas si ça aidera beaucoup de gens, parce que la première astuce qu'on m'a dit, c'est reste naturel, reste toi-même. À Radio Campus, c'est comme ça qu'on fait de la radio. On n'est pas un média mainstream ou commercial où, tu sais, il y a des formations derrière qui sont un peu du formatage. C'est pas forcément péjoratif, mais tu vois, quand t'écoutes des journalistes sur France Bleu ou France Info, France Inter, tout ça, c'est quand même, il y a un ton, tu vois, tu le reconnais. Nous, à Radio Campus, ou même dans les radios associatives, on fait de la radio différemment. On n'a pas ces formations, c'est tout le monde peut faire de la radio et on prend tout ce que tout le monde peut donner. Et nous, on fait de ça une force. C'est-à-dire que quand tu te branches sur Radio Campus Bordeaux, tu sais que t'écoutes ça et que t'es pas sur une autre radio. Ça correspond ou pas aux auditeurs, libre à eux d'écouter, mais... Pour les conseils, au niveau du rythme, en fait, et c'est peut-être le moins naturel, c'est-à-dire que quand on écrit une chronique ou un texte, forcément, quand on sort de l'école, tu sais, t'as toujours cette manière d'écrire très scolaire, avec une ponctuation, une sémantique, tout ça, et ben en fait, ça, il faut le mettre de côté et écrire de manière qui n'est pas du tout instinctive, c'est-à-dire écrire comme on parle, en mettant des virgules partout, même si c'est pas beau et que français, au niveau de la langue, c'est pas correct. Mais en fait, c'est pour mettre des respirations partout, là où il faut. En fait, on n'est pas là pour réciter un texte, on est là pour le rendre vivant et pour surtout donner l'impression qu'il est improvisé ou en tout cas qu'il est spontané à la radio. Et c'est vraiment pour capter, l'auditeur. Si t'écoutes quelqu'un qui récite son texte, tu vas décrocher au bout de 30 secondes. Donc voilà, se forcer à écrire comme on parle et aussi s'écouter. Quand on enregistre quelque chose, il faut toujours réécouter pour voir ce qui pêche, ce qui pêche pas, si nous-mêmes ça nous intéresse. Après, au niveau du timbre de la voix, ça va être tout un chacun, mais je pense que tout le monde a une voix de radio, quelle qu'elle soit. Il suffit pas d'avoir une voix de crooner comme ça pour faire de la radio.
Il nous fait même l'imitation en plus. Il y a un petit côté Barry White là.
Non, mais voilà, vraiment, il y a... Ouais, non, j'avais une anecdote, mais je vais pas la raconter.
Tu veux pas la raconter?
Ah, je sais pas, peut-être si elle écoute. Mais en fait, tu vois, j'avais une amie qui a commencé avec moi. Elle était bénévole à Radio Campus Bordeaux. Et elle avait une voix très aiguë et toute douce. Toute calme, toute douce. Et moi, je l'aimais bien, cette voix. On l'aimait tous. Et maintenant, elle a fait des études et une formation pour travailler à France Bleu. Et une fois, donc, on ne s'était pas parlé depuis quelques années, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Elle fait, tiens, ouais, donc je savais qu'elle bossait à France Bleu. Et elle m'envoie un podcast ou un enregistrement d'une émission qu'elle a faite. Et là, je l'écoute et je fais, mais quand je t'ai pas entendu, tu m'as pas envoyé le bon podcast. Elle fait, mais si, là, c'était moi qui parlais, c'était ma voix de... C'était un reportage sur je sais plus quoi, des Jedi en Normandie. Bref, les reportages locaux de France Bleu, c'est toujours exotique. Et en fait, dans sa formation, il lui avait dit qu'elle avait, une voix de petite fille et que ça passait pas du tout à la radio. Et elle a dû changer sa voix. Et alors, elle a une voix très professionnelle, une jolie voix hein, de femme, voilà, avec des graves. Enfin, tu sens vraiment qu'elle a réglé sa voix avec les graves, les aigus, comme si elle avait des potards à l'intérieur. Mais franchement, c'est plus elle. Et je repense toujours à cette anecdote de dire, c'est quand même dommage de changer sa voix pour un média, parce que c'est ce qui fait l'intérêt quand on écoute la radio, quand on regarde la télé. C'est quand même tout un panel différent de voix qui s'offre à nous et auxquelles on s'identifie ou qu'on s'attache. Et c'est dommage d'avoir une sorte de formatage ou qu'en tout cas quelqu'un dans la vie te dise « Bah non, ta voix, elle est pas bien, il faut la changer. » Et nous, dans les radios associatives, on n'est pas du tout comme ça et je trouve que c'est quand même un bon point de rester naturel.
Ouais, et c'est très, très évocateur ce que tu partages. Ça me rappelle en fait, je crois, un documentaire que j'avais vu ou une lecture sur comment on aseptise les accents aussi à la radio et à la télévision.
Oui, c'est vrai ça.
Comment les accents, on fait en sorte de gommer les accents des chroniqueurs ou des chroniqueuses à la télé, par exemple. Il y a un certain nombre de chroniqueurs. Bon, on parlait de quotidien hors podcast à l'instant. Il y a un chroniqueur, par exemple, qui vient de la région de Montpellier. Et à la base, il n'a pas du tout ce phrasé qu'il peut avoir aujourd'hui. Je voudrais m'arrêter sur un point qui me paraît fondamental. C'est que les gens qui font des métiers de voix ou des métiers liés à la parole sont souvent d'anciens timides.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Ah, c'est marrant, ça.
Et il y a plein d'exemples connus. Et je me souviens d'une phrase d'un acteur très célèbre qui s'appelle Charles Berling, qui disait que souvent les grands orateurs, c'était un peu comme les grands crus. Ça naît au milieu des cailloux et des mauvaises herbes. Et je trouve ça génial comme image. Donc, il y a plein d'exemples célèbres de gens qui étaient soit bègues, soit en proie avec les plus grosses difficultés à l'oral et qui ont surmonté ça pour faire de la prise de parole. Alors, pour l'anecdote, c'est mon cas aussi. Je vois que ça nous fait un point commun, ça nous a donné envie de nous mettre en selle et de monter sur scène régulièrement et d'en faire des métiers. Comment t'as travaillé par exemple tout ce qui était tics de langage?
Ça c'est pas facile.
Ouais.
Parce que les tics de langage justement t'en as pas conscience toi-même, sinon t'en aurais pas. Donc en fait, c'est surtout les avis extérieurs, c'est les gens qui t'écoutent qui vont dire « tu dis quand même beaucoup de du coup, de et voilà, et donc, ou et bé ». Il y a des choses comme ça, forcément tu les dis pas, mais c'est difficile de lutter contre parce que quand t'as des tics de langage, surtout quand tu à la radio ou dans les médias, je pense que c'est surtout une demi-seconde ou une seconde qui te permettent de réfléchir pour réorganiser les idées dans ta tête, relire tes notes, savoir où t'en étais sur ta feuille. Donc plus ou moins consciemment, tu cherches à gagner un petit peu de temps pour
Exactement.
Refaire le point là-dessus. Mais bah, forcément, c'est pas très joli à écouter. Donc, c'est là l'importance de se réécouter et puis d'être à l'écoute de soi-même aussi quand on fait de l'animation radiophonique. Alors, dit comme ça, ça paraît vachement égocentrique. Hein, c'est oui, s'écouter parler. Mais non, pas du tout. C'est justement pour... on travaille avec notre voix, c'est un outil de travail. Il faut qu'elle soit agréable à l'écoute, il faut qu'elle soit quand même propre et que ce soit, oui, que ce soit un travail propre qui sorte, que ce soit dans l'éloquence, mais aussi dans les mots qu'on utilise, dans le vocabulaire. Il faut quand même avoir un vocabulaire un minimum riche. On ne va pas jurer comme des charretiers, on ne va pas bouffer des mots, des choses comme ça. Donc l'éthique de langage, ça se travaille aussi, mais c'est quand même quelque chose qui revient toujours. Et j'ai l'impression que quoi qu'on fasse... il y en aura toujours un petit peu.
Ouais, en prise de parole en public, j'ai pour coutume d'enseigner à mes clients ou à mes élèves qu'en fait, pour supprimer des tics de langage, il faut investir le regard. Investir le regard du public. Et c'est vrai que quand on est face à un micro, on peut perdre ses repères. Parce qu'on peut être face à une table de mixage. Là, en ce moment même, j'ai une fiche sous mon micro ou une bouteille d'eau qui peuvent distraire mon attention quand je prends la parole. Donc, autant que possible, peut-être... essayer déjà d'être en interaction totale avec son invité, ça peut déjà être pas mal. Et il y a un deuxième point qui me paraît important dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est trouver ce qui sonne pour la radio, ou en tout cas reponctuer son écrit pour l'oral. Je trouve ça hyper intéressant dans la mesure où trois quarts des gens que j'accompagne, professionnels, étudiants, en fait commencent par écrire en fait leur discours, l'enregistrent, l'apprennent par cœur et espèrent le restituer dans le bon ordre au mot précis le jour J. Et ça, c'est une plaie. Ça, c'est une plaie surtout pour l'orateur et puis enfin pour le public, pour plusieurs raisons. Déjà, parce que si on oublie un mot, c'est catastrophique, on a tendance à se dire que tout est perdu.
Mais c'est ça, c'est une pression énorme.
C'est une pression énorme.
C'est déjà dur de parler devant un micro si en plus tu te rajoutes la pression de « il faut absolument que je restitue mon texte au point près ».
C'est ça.
Non, c'est terrible. En fait, il faut... je pense toujours au film Le discours d'un roi,
ouais,
qui est vraiment un super film là-dessus. Et en fait, qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, ça peut changer du tout au tout. Mais c'est en fait pour faire un bon discours, en tout cas bien parler à la radio, tu parlais de rythme. En fait, moi, je vois ça vraiment comme du théâtre. Et c'est pour ça que je suis content de faire les deux en même temps. Et c'est marrant parce qu'on a des bénévoles aussi ici qui animent des chroniques. Pour eux, quand ils font une chronique, c'est comme faire une pièce de théâtre, être sur scène. Et quand tu récites un texte de théâtre, tu le récites pas, en fait, tu l'incarnes, tu donnes vie. Et c'est pareil pour la radio. Il faut qu'il y ait une musique dans tes phrases, dans ton phrasé, même si c'est pour annoncer une musique, pour annoncer un invité, pour rebondir entre différentes phrases ou pour tout simplement donner envie à l'auditeur de te suivre, d'écouter et qu'il passe un bon moment. Ça peut être un sujet complètement nul ou chiant s'il y a l'animation derrière, que les gens qui étaient autour de la table dans l'émission ont bien parlé de manière agréable, que c'était chantant, que rien que ça c'est agréable. C'est aussi pour ça qu'on écoute la radio, c'est pour... Tu vois, quand on est à la voiture, quand on est en train de cuisiner, c'est souvent quand on est en train de faire quelque chose. En plus, la radio, c'est un média à part pour ça. Donc, c'est vraiment un média qui t'accompagne un peu partout, quoi que tu fasses. Donc, c'est aussi ce que tu mets en arrière-plan. Donc, c'est pas tant pour le fond que sur la forme. Mmh. Et c'est là que c'est important. Puis pour nous aussi, c'est agréable que quand on fait de la radio... On a envie de faire un travail propre, que ça chante, que ce soit incarné, qu'on sorte du studio, on est content. Comme quand des comédiens partent de scène et se dire bah là on l'a bien incarné notre texte, même si on a parlé de la culture des éplucheurs de patates en Normandie, j'en sais rien, tu vois. Mais...
En art oratoire, on parle souvent de trois critères pour créer de la prosodie à l'oral, c'est-à-dire une musicalité, créer du relief, marquer des ruptures dans un discours. On parle souvent du volume, du rythme et des intonations, et essayer de jongler un petit peu à la manière de trois potards qu'on aurait sur une table de mixage, réussir à articuler un peu ces trois dimensions-là et jouer avec ces trois boutons-là, volume, rythme, intonation. J'imagine que c'est un peu l'idée là aussi.
Bah, du coup, tu mets les mots sur des choses que je faisais plus ou moins naturellement depuis que j'ai commencé la radio, mais ouais, en fait, c'est ça, c'est ces trois éléments clés qui sont assez importants. Ouais, ouais. Tout à fait. Tiens, pour rebondir juste sur quelque chose que tu disais avant sur le fait d'être distrait par des choses. Tu disais, là, il y a ma feuille, là, il y a la bouteille d'eau. Je peux me déconcentrer, avoir des tics de langage ou perdre le rythme. Ou c'est là où tu te mets à bouffer des mots, en fait, où t'as, je sais pas, une autre personnalité de toi, en tout cas celle qui n'est pas à la radio, qui reprend le dessus. Mais ça peut aussi être le sujet que t'abordes. Tu sais, quand t'es à fond dans un sujet qui te passionne et que vraiment t'es à fond et tu te perds un peu dedans. Et c'est là où tu oublies que tu es à la radio, que tu es devant un micro et que tu t'excites un peu. Comme quand tu parles avec un pote et que vous parlez d'un truc qui vous excite trop. Et ah ouais, tu l'as vu ce film, mais ouais, il est trop bien. Et tu vas te mettre à parler super vite, à bouffer des mots. Et au bout d'un moment, on comprend même plus ce qu'on dit tellement.
Ouais,
il y a l'excitation qui prend le pas, quoi.
Et ce qui est incroyable, c'est là où on voit la vraie dimension physique du langage.
Ouais,
c'est que des fois,
c'est physique, quoi.
Des fois, tu te sens dépassé par ton propre débit. T'as l'impression que ton débit va plus vite que ton cerveau.
Exactement.
Et il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, c'est leur demande. Ils me disent, voilà, moi, j'aimerais pouvoir maîtriser mon débit. C'est aussi quelque chose qui se travaille, hein, d'ailleurs.
Mais j'ai remarqué que ça, tu le fais mais dans toutes les sphères de ta vie, David. La première fois que je t'ai vu, tu étais maître de cérémonie dans un spectacle de théâtre d'improvisation, La Veillée.
Ah, merci de me faire de la pub, Léo.
Faut bien que je te renvoie à l'ascenseur. Et en fait, donc déjà, tu avais une superbe diction, et puis je trouve que tu prenais ton temps pour parler. Et donc après, forcément, j'ai appris à te connaître, et j'ai trouvé que en fait, tu avais toujours cette zénitude. Dans ton discours, dans ta manière de t'exprimer, tu mesures toujours tes mots, tout est bien séparé. En fait, tes mots, on dirait des sushis, tu vois, c'est propre, c'est là, c'est pas des gros pâtés. Et excuse-moi pour la métaphore, mais c'est tout de suite ce qui me vient.
J'adore.
Mais en fait, je trouve que tu parles toujours de manière posée, comme si vraiment tu mesurais le poids de chaque mot, de chaque phrase. Et je trouve que ça, c'est super bien et c'est utile pour tout, pour la radio, pour le théâtre, pour la télé, enfin, tout ce qui relève de l'éloquence, et c'est important de prendre ce temps-là.
Alors, merci beaucoup, on me l'a souvent dit, et j'avoue que c'est quelque chose que j'ai... Alors, évidemment, il y a du travail, évidemment, je me suis formé, mais sur la vitesse du débit, paradoxalement, je me suis souvent dit, pour être cool à l'oral, pour que ce soit percutant, il faudrait que j'aille plus vite. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai accepté un peu plus ma diction, mon élocution, et que je me suis un peu lâché les pompes avec ça. Mais pendant longtemps, je me disais, il faut que tu parles plus vite, David, pour être plus percutant.
Je suis pas forcément d'accord avec
Et avec l'expérience, avec le temps, en faisant ce métier-là, je suis plus d'accord avec moi-même non plus. effectivement, après, ce qui est bien, c'est de pouvoir jouer sur les rythmes.
En fait, c'est ça, c'est mettre du tonus
mettre du
dans
tonus,
la voix,
c'est ça.
D'accentuer, ouais. Dire « Et aujourd'hui, on écoute tout de suite David Jada ».
Ouais, c'est ça.
Sans faire de Denis Brogniart, évidemment. Mais...
c'est génial parce que tu me tends des perches incroyables. Il y a plein d'orateurs, je pense à Robert Badinter, qui a défendu, par exemple, la loi d'abolition de la peine de mort devant l'Assemblée, je crois que c'est en 82. On peut aller voir sur YouTube, il y a plein de vidéos, où même... quand il prend la parole dans les médias, il accentue beaucoup les attaques des mots, les consonnes. Oui. C'est très significatif. Il y a un vrai travail sur les consonnes, sur la ponctuation. Donc, souvent dans les formations en art oratoire, c'est vrai que le travail de la musicalité, c'est un peu le parent pauvre des formations à la prise de parole. Et je crois que travailler un peu avec les techniques radiophoniques, que des gens comme toi ou tes homologues puissent aller, je crois que c'est le cas à Radio Campus, vous faites des ateliers en école, des choses comme ça. C'est important de donner conscience aux gens de leur propre voix et de ce qu'ils projettent à l'oral. Mmh. Non pas dans un souci de jugement et dans un souci de stigmatisation de voix ou de timbre, pas du tout. On a une signature, on a une identité, mais savoir aussi ce qu'on renvoie et puis pouvoir le travailler, non pas pour l'aseptiser, mais pour le moduler en fonction d'un événement.
En fait, parler devant un micro, ça s'apprend, mais ça demande pas forcément beaucoup de travail. Bah, tiens, tu parlais des ateliers, donc c'est vrai qu'on fait des ateliers d'initiation radiophonique à Radio Campus Bordeaux. Moi, j'en anime auprès du Conseil municipal des enfants de Bordeaux. Donc une fois par mois, je me ramène avec un enregistreur, comme toi. Il est un peu moins bien le mien, je suis un peu jaloux. Et donc j'enregistre les enfants qui débattent en commission, c'est comme un conseil municipal, mais avec des enfants. Et en fait, j'ai été étonné de voir qu'ils sont assez à l'aise devant les micros parce que, en fait, ils voient le micro, ils savent qu'il faut être sérieux, il faut être concentré. Alors ils le sont pendant les séances, mais quand il y a le micro, ils sont hyper concentrés sur ce qu'ils vont dire et naturellement, en fait, ils prennent la peine de bien articuler, de bien décortiquer les mots, d'être concentrés sur ce qu'ils vont dire. Et j'ai rarement besoin de les reprendre ou de les faire répéter parce que c'est très propre ce qu'ils disent. Ils vont pas parler trop vite, ils vont se calmer, ils vont calmer leur rythme, etc. Et en fait, ça, je pense que tout le monde peut le faire. Enfin, nous, on le voit à la radio. Tu vois, tous les jours, on a des invités. C'est des acteurs locaux, des artistes, des gens d'associations qui n'ont pas forcément l'habitude de la radio. Pour la majorité, c'est la première fois qu'ils viennent faire de la radio. Au début, ils ont un peu peur. Donc nous, on les met à l'aise. Et puis, ils se rendent compte que comme on est là pour parler d'un sujet qu'ils connaissent, qu'ils ont travaillé, qui les touche, ils n'ont pas besoin vraiment de... Ils n'ont pas de choses à apprendre. Il leur suffit d'être concentrés sur ce qu'ils disent et de l'expliquer de manière intelligible et de manière claire, mais comme quand tu expliques n'importe quoi à n'importe qui dans quel que soit le contexte.
Ouais, j'entends un peu deux moteurs. Il y a la passion,
qui
est un vecteur d'éloquence. Toute génération confondue, toute époque, c'est universel. On parle jamais aussi bien que de ce qui nous passionne, ce qui nous motive.
Je te le fais pas dire.
Donc, déjà, et puis l'application de ces jeunes-là. Donc, ce que tu leur apprends prioritairement, c'est... si tant est qu'il y ait des choses à leur apprendre parfois, c'est de faire attention notamment à contrôler, à maîtriser le débit, c'est ça ?
Alors, en fait, il y a le débit, il y a la forme et il y a le fond. En fait, je les préviens, ils sont en train de travailler sur, je sais pas, un sujet d'affiche ou n'importe quoi. Je lui dis, est-ce que tu pourrais m'expliquer ce que tu es en train de faire ? Et je lui dis, comment me l'expliquer pour... Enfin, tu vois, qu'il se fasse un petit plan, mais sans l'écrire, mais juste qu'en quelques secondes, il organise ses idées pour que ça sorte construit, éclair pour lui et pour nous.
Alors ça, c'est très éclairant. C'est la structuration aussi de son message. Souvent, je dis qu'on n'improvise pas l'idée. C'est-à-dire que l'improvisation en prise de parole en public, finalement, elle existe. Mais quand on part vraiment de... On part rarement de zéro. Et quand c'est le cas, souvent, c'est pas très bon. Parce qu'on a tendance à se perdre au milieu de sa phrase, au milieu de ses idées. Souvent, l'idée pour un pitch, par exemple, c'est de partir d'une structure. Par exemple, tiens, je vais démarrer avec une anecdote. Une anecdote sur mon parcours professionnel pour donner un éclairage sur ce que je fais aujourd'hui. Un peu à la manière d'un formateur qui prodiguerait un conseil pour le pitch. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui voudrait improviser une prise de parole, une chronique radiophonique ou un podcast ? Est-ce que t'as des amorces pour pouvoir improviser convenablement ?
Alors, pour l'improviser, déjà, il faut bien connaître le sujet sur lequel on va improviser. Il faut que ce soit très frais, soit vraiment que ce soit une passion ou quelque chose qui nous offre suffisamment de branches pour se raccrocher si justement on s'en mêle dans les phrases, dans le sujet, où on ne sait plus trop où on va parce que c'est de l'improvisation. Donc si c'est un sujet qu'on maîtrise très bien et qui est très frais dans notre tête, il suffit juste de prendre son temps, de respirer, pas oublier de respirer, ça c'est important, et de mesurer, toujours d'anticiper toujours là où on va. C'est ça la plus grande difficulté peut-être quand on improvise, c'est qu'on ne sait pas où on va, mais il faut quand même anticiper. C'est une sorte de paradoxe, mais après ça se fait, hein, ça se travaille et ça se fait. Après, je vais prendre l'exemple des chroniqueurs qui sont ici. Il y a deux types de chroniqueurs, enfin de, de chroniques à Radio Campus, il y a ceux qui écrivent tout. Et il y a ceux qui improvisent, enfin qui vont au fil du micro, qui vont se noter quelques petits points sur une feuille. Et en fait, ça, j'ai envie de dire, ça dépend de la sensibilité et la préférence de chacun. Il y en a qui sont beaucoup plus à l'aise si tout n'est pas écrit et qu'on récite le texte, enfin qu'on y donne vie. Et il y en a d'autres qui préfèrent vraiment se laisser porter au fil de l'impro, au fil du sujet. Et justement, comme c'est s'ils parlent d'un film et qu'ils l'ont vu la veille, ils vont peut-être se sentir plus à l'aise pour en parler sans tout écrire, comme ça pouvoir déborder, revenir sur des points qu'ils n'auraient pas forcément pensé à écrire sur le moment. Mais c'est quand même important, quelle que soit la méthode de prise de parole devant un micro ou pour une chronique, de quand même structurer ses idées, donc faire un plan, que ce soit des points juste écrits comme ça pour se faire des branches et se raccrocher à ça. Si jamais à un moment on a un trou de mémoire, on ne sait plus comment meubler ou comment développer un point, bah tac, on sait que là c'est écrit, voilà, je vais parler de ce point-là, hop, et hop, ça te redynamise. Toi, dans ton esprit, tu sais que maintenant tu vas parler de tel sujet, t'as plein d'idées, tu repars là-dessus, une fois que t'as épuisé ça, tac, tu regardes ta feuille, t'as un autre point, tu repars là-dessus, etc. Et à la fin, t'as une chronique qui est parfaitement construite et qui est complète.
Donc j'ai le sentiment que t'es plutôt partisan de la deuxième école, c'est-à-dire des mots-clés, de pouvoir rebondir sur des mots-clés.
Ben, ça dépend. En fait, moi je suis surtout animateur radio, alors moi j'écris toujours mon intro. À fond parce que j'aime bien faire des petites blagues ou que ce soit très propre, comme c'est le début du magazine, j'ai envie que les auditeurs aient un édito qui soit carré, comme ça on sait ce qu'il y a. Puis pour moi c'est clair aussi parce qu'il y a pas mal de chroniques et d'informations à lister quand je dois présenter l'invité du jour notamment, et que c'est sur des thèmes assez compliqués comme l'emploi par exemple, avec des sigles et des thèmes. C'est bien que ce soit structuré, mais après j'anime des chroniques dans l'émission de jeux vidéo qui s'appelle Gros Stick sur Radio Campus Bordeaux. Et donc je fais des chroniques, des tests de jeux vidéo ou des sortes de petites réflexions sur des musiques ou sur des thématiques. Et j'arrive jamais à savoir si ce que je préfère c'est improviser avec juste des petits points ou si je dois tout écrire. En fait ça va dépendre si, donc là c'est le thème du jeu vidéo, mais si je parle d'un jeu vidéo auquel j'ai joué, que je viens de finir, donc c'est super frais et j'ai envie d'en parler de manière naturelle, détendue et pas réciter, tu vois. Ou alors si vraiment c'est ou alors le sujet est très compliqué, je sais que je vais me perdre, voilà, j'écris tout, mais je trouve que c'est un peu frustrant parce que t'as toujours envie de déborder un petit peu, de t'aventurer à droite à gauche du sujet, de le dépasser, de revenir, de faire des parenthèses. Quand tout est écrit, en fait, t'as fait une chronique, ok, t'as parlé devant un micro, c'était structuré, c'était nickel, bon. Mais ce qui est chouette en radio aussi, c'est d'improviser, c'est de rester naturel, ouais, de se laisser porter au fil des mots, au fil du sujet, pour souvent en plus t'es pas tout seul, donc il y a des gens qui ont envie de te poser des questions, donc t'as envie d'y rebondir dessus. Et c'est vrai que quand t'as tout écrit et que quelqu'un fait une petite remarque ou une blague, ça arrive hein, très souvent, là t'es perdu, enfin tu peux être perdu, il faut savoir rebondir sur ses pattes. Mais c'est arrivé dans mes années de radio, même quand j'étais bénévole, à l'époque j'écrivais tout et l'animateur de l'époque aimait bien pas s'incruster dans les chroniques, mais participer un minimum, faire des petites blagues ou des relances, des choses comme ça. Donc toi, tu réponds à la personne qui te parle, c'est naturel. Et après, tu te retournes vers ta feuille, tu te dis « mince, mais j'en étais où ?» Et là, tu le prends trop mal, tu fais « mais pourquoi tu m'as parlé ?» et tout. Enfin, ça, tu te le dis dans la tête, hein, tu vas pas t'en prendre à la personne en direct. Mais justement, je trouve que pas tout écrire, avoir des points, ça permet justement... t'as pas de filet de sécurité, mais finalement, est-ce que t'en as vraiment besoin ? Parce que le sujet, tu le connais, tu vas en parler à la radio... tu connais la personne qui est en face de toi, donc théoriquement, si on te pose des questions, qu'on fait des petites blagues, tu vas savoir les prendre, rebondir dessus, en rire, et continuer par derrière à développer le sujet, et au final, ça fera un instant radio qui est hyper agréable.
Oui, je crois que ce qui est bien, c'est d'avoir une idée de là où tu veux aller.
Oui, voilà, mais pas se laisser perdre, voilà, pas s'égarer dans le cheminement.
Pour un pitch, je dis souvent que c'est bien d'avoir en tête son début, son accroche, et sa fin. Si j'ai 3 minutes, par exemple, pour présenter mon activité et qui je suis dans une soirée réseautage ou devant un parterre de professionnels dans je ne sais quel événement professionnel, savoir comment je vais accrocher un peu l'oreille de l'auditoire et savoir par quoi je vais terminer, déjà en ça, c'est un bon point. Et puis au milieu de ça, se donner aussi un squelette. Et souvent, peut-être 3 axes que j'ai envie de faire ressortir de mon métier. Premièrement, je travaille sur ça. Deuxièmement, je travaille sur ça. Troisièmement, je travaille sur ça. sa structure, mais au milieu de ça, la chair de mon squelette, je la compose un peu en direct. Et c'est ce qui fait que je prends aussi un peu d'adrénaline et un peu de plaisir, quoi.
Bien sûr. Non, c'est important ce que tu dis, parce que c'est vrai que la première et la dernière impression, c'est celle qui marque le plus. Ça marche pour Quel Enfer, une soirée réseautage, tu dois te présenter en 3 minutes, c'est la technique de l'ascenseur, non, c'est ça?
Le fameux elevator pitch.
Ah mon Dieu, quelle horreur. Ça me fait surgir d'horribles souvenirs. Mais je pense que peut-être pour une émission radio, c'est un peu pareil, tu vois, t'allumes ta radio, tu veux écouter de bout en bout une émission. Il y a le début qui vraiment va te mettre dans l'ambiance et la fin où bah, là on se dit au revoir et tu vas pouvoir revenir à ta vie normale où tu n'écoutes plus la radio. Mais il y a quand même un rythme à tenir dans une émission radio, parce que si tu décroches, bah, là tu vas éteindre, tu vas faire autre chose, et nous c'est pas ce qu'on a envie, mais aucune émission, c'est pas le but que les auditeurs ou les téléspectateurs décrochent. Donc il y a quand même un rythme à tenir de bout en bout, et c'est assez crevant en fait. Je me rends compte où parfois quand je fais une émission de 2 heures, à la fin je suis là, un gros coup de barre, t'as vraiment l'impression d'avoir fait un spectacle de 2 heures où t'as pas décroché, t'as une concentration qui est constante et une concentration élevée, parce que si tu décroches en radio, ça m'est arrivé une fois, je peux te dire, pas deux, où quelqu'un en fait parlait d'un truc, j'ai décroché, et là la personne me dit « qu'est-ce que t'en penses Léo ?» Et là t'es en direct, et tu peux pas dire « mais j'ai pas écouté ». Parce que ça tu peux le faire quand on parle à quelqu'un, tu sais, tu décroches, tu fais « ah pardon, t'as dit quoi ?» La personne elle répète, mais t'es à la radio, la personne elle se vexe, tu passes pour un idiot à l'antenne, je peux te dire. Donc franchement t'es ultra concentré pour tout, surtout quand t'es animateur radio et que bah, tu mènes des interviews avec des gens qui vont répondre à tes questions, mais c'est des réponses pointues, t'as plein d'éléments à prendre, en plus tu dois regarder tes notes, tu dis ok bon bah là on va rebondir là-dessus, parce qu'en plus moi j'ai fait mon interview, bah, c'est structuré comme tu l'as dit, il y a un squelette, et tu dis bah là il parle de ça, ok donc je vais rebondir sur telle question pour rester sur cette thématique, mais on n'a pas assez développé le point d'avant, donc je me le garde du côté de la tête. Ça fait mais énormément de choses à se mettre dans des coins de cerveau, c'est une gymnastique, c'est du crossfit de cerveau quoi, une émission de radio
du crossfit
en direct.
De cerveau, j'aime bien la métaphore. Et par-delà le crossfit, ça me fait penser naturellement à l'improvisation théâtrale qu'on pratique tous les deux. Moi, j'étais coutumier du fait, dans mes premières années, malheureusement encore un peu, c'est que des fois, il se joue une scène, tu décroches 2 secondes, t'es dans ta tête.
Ça, c'est horrible.
Et au lieu d'appeler ton camarade de jeu, parce que dans la pièce, il s'appelle Jean-Claude, tu l'appelles Julien ou vice-versa. Et là, c'est le drame. Non, c'est pas le drame, parce que tu peux retomber sur tes pattes, c'est de l'impro.
Ça va peut-être passer entre les comédiens, mais le public, lui, il va voir que tu t'es gouré de prénom.
Voilà. Donc ça me permet, la transition est toute trouvée, Léo. En quoi l'improvisation théâtrale t'est d'un apport plus que précieux dans ton métier de voix au quotidien ?
C'est marrant, parce que je pensais pas que cette question serait aussi difficile, parce qu'il y a tellement de choses. En fait, pour moi, l'impro et la radio, c'est vraiment 2 choses complémentaires. Mais ce que m'a apporté l'impro, c'est vraiment savoir rebondir sur tes pattes, quoi qu'il arrive. Il peut se passer n'importe quoi en studio, ou en interview, ou dans une discussion radiophonique. L'impro me permet toujours de savoir comment rebondir par des petites galipettes, tu vois, des expressions, des choses, des questions, des petites blagounettes, n'importe quoi. En fait, le théâtre d'impro, c'est vraiment du théâtre spontané, c'est du théâtre de l'instant. Tu sais pas où tu vas, tu dois construire une histoire et il peut pas y avoir de blanc, tu peux pas montrer que t'es perdu. Et de toute façon, en fait, et c'est ça qui est rassurant, bizarrement, avec l'impro, c'est que t'es jamais perdu. T'es toujours à fond dans l'histoire, dans ton personnage, parce que t'es impliqué dedans, parce que en fait, t'oublies complètement que t'es un comédien sur scène et que ce qui se passe, que t'es en train de mimer, en train de déplacer des chaises. Pour toi, la chaise, elle est réelle. Et ça, je me suis rendu compte que ça pouvait s'appliquer à la radio. Que, bah, tu vois, tous les jours, je reçois des acteurs différents, des invités. Et clairement, je suis spécialiste de rien de ce que je traite au quotidien. J'ai des acteurs de l'écologie. Là, ce midi, j'avais un spécialiste de l'emploi. J'ai des plasticiens, j'ai des musiciens, j'ai des gens qui viennent me parler, mais de trucs, j'y connais rien. Mais, bon, après, on n'attend pas de moi que je m'y connaisse, mais je fais quand même mes recherches. Ça reste mon métier de faire mes recherches, de savoir de quoi je parle. Mais ce n'est pas moi qui vais expliquer le sujet aux auditeurs, c'est l'invité. Donc, moi, je dois les faire parler. Et t'as toujours cette petite peur de « ouais, mais si à un moment l'invité il parle pas, ou on n'a plus rien à se dire et tout, et qu'il reste quand même un quart d'heure d'émission », et bah, grâce à l'impro, en fait, tu vas toujours savoir relancer l'invité, parce que non seulement c'est mon rôle, mais j'ai envie qu'il me parle et qu'il parle aux auditeurs. Et il y aura toujours, toujours des éléments. Et en fait, quand tu fais du théâtre d'impro, tu relances toujours. En fait, tu prends l'idée qu'on te donne et tu apportes la tienne. Et finalement, une discussion, c'est ça. Et une discussion radiophonique, ça l'est encore plus. C'est-à-dire que si tu as une personne qui va t'expliquer quelque chose, je ne sais pas, par exemple, sur la tapisserie de la Dame à la licorne, tu auras une doctorante qui te parle de la fabrication des colorants. Moi, j'y connais rien, mais je vois que ça la passionne. C'est sur ça qu'elle fait sa thèse. Vraiment, ça la fait vivre. Plutôt que de lui poser des questions d'histoire sur « Oui, mais cette tapisserie, point de vue historique, on ne connaît pas grand-chose. Est-ce que vous avez des secrets ?» Ben non, je vais plutôt continuer à aller dans la chimie des composants, des colorants. Parce que c'est elle, en fait, qui va enrichir ça. C'est elle, je vais me nourrir de sa richesse. Et moi, je vais la nourrir de ma curiosité. Donc, c'est ça qui va faire une interview réussie, en fait.
L'improvisation théâtrale, moi je trouve que en termes d'apport, le plus évident après 6 ou 8 ans que j'en fais, c'est aussi sur la créativité.
Oui,
tu parlais d'une sorte d'émulation, si je reformule ce que tu as dit.
Tout à fait.
Il y a une proposition A, ma proposition B agrémente la proposition A, il y a une logique un peu d'émulation, d'escalade. Et je trouve qu'en termes de créativité, c'est aussi extrêmement puissant pour les gens qui voudraient se former à la prise de parole en public. C'est vrai que c'est un bon outil. Parce que ça permet aussi de faire des associations d'idées inattendues qui peuvent parfois être très, très fécondes.
En tout cas, ouais, c'est ce qu'on retrouve parfaitement en théâtre d'improvisation. C'est ces idées qui se rencontrent et qui, dans l'improbable, construisent quelque chose de beau, de plus ou moins propre, hein, ça dépend. Mais en tout cas, il se passe quelque chose dans l'instantané et c'est ce caractère spontané et instantané qui en fait sa beauté. Tu vois, quand tu regardes des sketchs un peu nuls à la télé qui sont écrits, t'es hyper critique, tu dis oh, c'est pas drôle. Alors que quand tu regardes une impro qui est rigolote, si c'était écrit, ce serait pas drôle, mais le fait que ce soit improvisé, ça l'est, parce qu'il y a la performance derrière.
Ouais, il y a une musique aussi. Récemment, j'ai été voir du théâtre à texte à Paris, je crois que c'était au théâtre de la Gaîté, et dès les premières minutes, j'entends un rythme qui n'est pas tout à fait le même que le rythme du théâtre d'improvisation, où forcément, on sent que le texte est quand même appris, que les phrases vont sortir dans un agencement bien précis, ce qu'on n'a pas en improvisation théâtrale. Et depuis tout à l'heure, tu parles de rythme et de musique. C'est un peu, je trouve, la thématique, le fil rouge de notre entretien. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que de par leur rythme, justement, il y a un animateur radio, un journaliste ou une journaliste, une animatrice qui t'a particulièrement inspiré?
Alors écoute, je vais être très honnête, je regarde pas la télé ou alors vraiment très peu. C'est des condensés, tu vois, sur YouTube, genre Vu, je sais pas si tu connais, c'est vraiment des choses qui vont te condenser tout ça.
C'est le nouveau zapping sur France 5.
C'est vachement bien, mais après, j'aime pas ce ton journalistique, tu sais, bah vraiment, quand tu regardes sur BFM ou des trucs comme ça, ça m'a jamais parlé, mais depuis tout petit. Alors que la radio, je l'ai écouté beaucoup quand j'étais adolescent. J'ai écouté Fun Radio, Skyrock, voilà. Donc, mais j'aurais pas dit que ces gens-là, c'était un modèle, non, en fait. J'ai toujours cherché un modèle ou quelqu'un à qui me raccrocher, parce que j'ai toujours eu ce truc-là de dire, mais est-ce que je suis vraiment un bon animateur radio ou comment est-ce que je peux m'améliorer? Forcément, tu vas chercher du côté des professionnels, ceux qui ont des années d'expérience, des formations, tout ça. Donc c'est important d'écouter de la radio, de regarder la télé ou en tout cas de voir ce qui se fait ailleurs, pour voir ce qu'on peut en piocher pour l'adapter à nous-mêmes. Et moi, c'est vraiment récemment où je me suis rendu compte qu'il y avait un animateur qui, en plus, n'en est pas un, j'ai trouvé super son animation. Il s'appelle Agbou et c'est un journaliste dans le magazine de jeux vidéo Canard PC, justement, dont je te parlais. Et en fait, c'est assez improbable parce que ça fait pas longtemps qu'ils font des émissions sur Twitch.
Ah oui.
Maintenant, c'est la tendance. Oui. Tout le monde en fait, surtout dans le milieu du jeu vidéo. Mais à l'époque, c'était purement un magazine papier. Donc, puis, ils ne voulaient pas se montrer. Ils voulaient garder le mystère. Ça se faisait beaucoup dans ce milieu-là. Enfin, c'est un autre sujet. Et depuis quoi? Ça fait quoi? 2-3 ans? Ouais, 3 ans environ. Ils font maintenant des émissions sur Twitch. Et au début, ils étaient super timides. C'était laborieux. Tu les voyais essayer d'animer une émission de 2 heures. C'était clairement pas leur métier. Et en fait, il y en a un quasiment instantanément. Qui est un journaliste, mais qui fait ça depuis les années 90, en fait, il anime de manière super naturelle. Ou alors, en tout cas, je sais pas, parce que moi, je l'ai rencontré et il n'était pas comme ça du tout. C'était quelqu'un d'extrêmement réservé, de fermé, qui est vraiment à très peu d'interaction avec les autres. Mais franchement, quand tu le vois face caméra. T'as l'impression que c'est le mec le plus social du monde, le plus sympa, le plus exubérant. Et en fait, il anime de manière extrêmement naturelle, très chaleureuse, très joviale. Il rigole. Enfin, et en fait, son dynamisme et sa jovialité, elle est vraiment communicative. Toi, en tant que spectateur, t'es hyper content de le regarder animer parce que bon, il prend du plaisir à le faire vraiment. Mais il a une manière. En fait, tu sens que au fond de lui, c'est ce qu'il est. C'est cette personne, il y a une sorte de flegme qu'il a où à un moment il va souffler, il va balancer ses feuilles, il va éclater de rire, il va se faire une blague pour se faire rire lui-même et rire les autres. Et j'ai trouvé que c'était chouette en fait, parce qu'il restait naturel sans oublier qu'il animait une émission. Et je trouve que ça, c'est un beau mariage et c'est vraiment ce que j'essaie de faire dans mon animation, c'est d'être moi-même. Mais aussi d'être le Léo professionnel qui anime une radio, mais sans être hyper formel, hyper sérieux, hyper... d'être une autre personne, en fait. Tu sais, t'as toujours ce dédoublement. C'est pareil quand t'es... Quand, je pense qu'un animateur à la télé, c'est pareil. Il n'est pas le même quand il est devant la caméra que quand tout est éteint. À la radio, c'est pareil. Tu joues une sorte de personnage. Et je trouvais que, voilà, Agbou de Canard PC, il arrivait à... En tout cas, à faire croire, ça je sais pas parce que je le connais pas vraiment personnellement, mais à l'antenne, tu sens qu'il y a une part de naturel et une part de... Voilà, on anime une animation, on anime une émission. Donc voilà, il allie personnalité et personnage médiatique, on va dire, le personnage de l'animateur. Je sais pas si c'est très clair, mais...
C'est très très clair et ça renvoie une notion. Souvent, on me pose la question, mais... Mais si j'apprends à prendre la parole en public, je ne vais plus être naturel. Et il y a souvent une mésentente autour de cette idée de naturel. C'est-à-dire que le naturel n'exclut pas la technique. Et je crois même que notre naturel, en fait, il émerge sur la technique. C'est-à-dire que c'est parce que j'ai appris les techniques d'improvisation théâtrale, c'est parce que, à un moment donné, j'ai appris les techniques pour être animateur de radio, que je peux aussi libérer mon naturel au milieu de toute cette technique-là. Comme n'importe quel sport, n'importe quel art, si j'arrive avec mon piano, avec ma guitare, en jouant des semblants de notes qui me passent par la tête, ça va être très dissonant. Par contre, si j'ai appris mon solfège, oui. À force de faire des heures et des heures, là, je vais commencer à pouvoir peut-être improviser et lâcher mon naturel. Donc, il y a une interaction permanente entre la technique et son ADN d'orateur, d'oratrice, d'animateur radio. Je suis convaincu de ça. Et ton exemple est très marquant en ce sens. Ça me fait penser à des humoristes aussi qui sont très différents sur scène. Et dans la vie de tous les jours. Je crois qu'Elie Semoun est réputé, il le dit lui-même, pour pas être toujours très très drôle dans son quotidien. Et enfin, ça me fait penser à ça. Récemment, je voyais aussi quelque chose sur François Damien. C'est des humoristes qui peuvent passer du tout au tout.
Bien sûr.
Presque du côté dépressif au côté très joyeux, jovial et au rire communicatif. Sur scène en un instant. Donc je suis complètement d'accord avec toi sur ce point. Est-ce qu'il y a eu un invité particulièrement éloquent dans ton émission?
Ça arrive souvent, heureusement, parce que c'est chouette quand ils sont éloquents, les invités, comme ça, ils parlent beaucoup. De toute façon, moins tu as besoin de les relancer, mieux c'est. Hein. Souvent, c'est les comédiens qui sont éloquents. Comédiens, quand ils viennent présenter un spectacle de théâtre ou quoi que ce soit, ils sont devant le micro, c'est comme s'ils étaient sur scène.
Ils sont à la maison.
Ils sont à la maison. Et encore, ça dépend. Parce que on connaît une comédienne à la Cigu qui est extrêmement tonique, extrêmement énergique et qui fait des personnages mais complètement bariolés. On dirait un cartoon, on dirait un personnage de Tex Avery. Cette personne, je pense que tu vois de qui je parle.
Je crois savoir.
Elle est, mais... extraverti, mais comme pas possible. Et alors, il n'y a pas moyen de l'amener devant un micro. Elle a dit, mais moi, devant un micro, c'est niet. Jamais tu me feras parler devant un micro. Parce que, elle me l'a dit, en fait, elle perdra mais complètement ses moyens. Elle ne saura pas comment parler devant un micro. Et ça me tue parce que c'est une de comédiennes les plus talentueuses que je connais. Et qui est le plus à l'aise sur scène ou même en public. Enfin, tu vois, tu peux être en soirée avec des gens, elle va se mettre à parler avec tout le monde, à ouvrir les cercles. Mais alors, devant un micro, c'est niet. Je pense que c'est pareil. Parce qu'en fait, c'est un peu contradictoire, mais tu sais, quand t'es un comédien face à un public, c'est intimidant parce que tu sens des centaines de regards qui sont dirigés vers toi, mais en même temps, c'est rassurant parce que tu te dis, mais c'est une énorme masse anonyme. Enfin, je sais pas. Moi, ça peut. En fait, le jour où je me suis dit ça, ça m'a complètement.
Ouais, je suis d'accord avec toi.
Je me suis détendu et c'est pareil avec les auditeurs, en fait, à la radio. Si tu te dis, mon Dieu, mais il y a plein de gens qui m'écoutent et en plus, je les vois pas. Mais je sens leur écoute sur moi. Mon Dieu, c'est horrible. Et en fait, tu te dis, bah non, c'est juste des gens qui veulent passer un bon moment. Et du coup, bah tiens, autre conseil pour les gens qui peuvent avoir un peu peur de parler devant une audience ou des choses comme ça. Moi, c'est vraiment ça qui m'a fait surpasser cette peur de passer devant des auditeurs. C'est dire, bah, peu importe le nombre de gens qui sont devant moi ou qui sont derrière leur poste de radio, qui m'écoutent, cette masse anonyme, mais qui me juge et que je sens leur jugement, tout ça, et qui me fait apparaître un troisième œil. Là, ce que je vais dire, ce sera, je vais le dédier à mon meilleur ami ou alors à mon frère, à cette personne de la famille, à une personne précise qui m'est proche et qui m'est cher. On oublie tout le reste et juste ce qu'on va dire, c'est comme si on parlait à cette personne. Et là, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et on oublie après qu'on a parlé devant pas mal de personnes.
Ce que je me dis aussi souvent, c'est je vais essayer de me faire marrer, ce sera déjà pas mal.
Oui, ah, ça c'est super. Bah oui, parce qu'on est notre propre pire ennemi. Donc si déjà on arrive à se détendre nous-mêmes, on se dit...
En fait, il y a un paradoxe, il y a une contradiction, c'est que pour donner beaucoup au public... Il faut partir d'un rapport à soi qui soit très tranquille et de se dire « je vais déjà essayer de passer un bon moment ». Et ensuite, si je passe un bon moment, peut-être que le public va passer un bon moment. Mais si je mets l'enjeu du côté du public tout de suite, c'est là où généralement je me stresse.
Bah oui.
Il y a un excès de stress, je perds mes moyens et je bloque ma créativité. Donc revenir à ce paradoxe, je vais le faire un peu égoïstement pour moi pour, au final, donner plus au public.
Mais parce que c'est comme pour tout dans les domaines artistiques, si tu pars du principe que tu vas, il faut que tu fasses quelque chose qui plaise aux autres avant de te plaire toi-même, t'es déjà à côté de la plaque.
Ouais,
c'est comme des musiciens qui vont faire quelque chose parce que le public a envie d'entendre ça, mais qui eux leur plaît pas, ça va pas être un bon album et en fait.
Tu joues en tremblant.
Bah c'est ça, tu joues en tremblant. C'est, ou je pense à quelqu'un qui fait du stand-up et qui va dire bon, ces blagues-là me font pas trop rire, mais je pense que ça a fait rire le public. Quand tu vois que les gens en face de toi, ça les fait pas marrer, mais où est-ce que tu te mets? T'as juste envie de disparaître pour toujours de la surface existentielle du monde. et c'est pour ça, en fait, je pense qu'avant toute chose, c'est important de pas s'oublier, de prendre soin de soi et ouais, de partir de nous-mêmes pour donner finalement quelque chose d'authentique à travers la parole, quel que soit le discours qu'on va faire, sa nature, son contenu ou sa forme, il faut partir de ce qu'on est nous pour quand même passer un bon moment, même si c'est expliquer un PowerPoint devant des collègues inertes et morts à l'intérieur dans une start-up horrible, ou qu'on fasse un spectacle d'impro devant des milliers de personnes, soyons fous. C'est, voilà, on est quand même là pour passer un bon moment, pour... On est sur scène, il y a des personnes qui nous écoutent, c'est quand même un moment fort, c'est chouette. Donc pas oublier de qu'on est une personne, ça sert à rien de gommer notre personnalité, ce qu'on est soi-même. C'est moi, je pars du principe que quand je suis à l'antenne, je suis Léo qui aime bien parler de telle manière ou faire des petites blagounettes comme ça, ou donc je pars de ça et puis par-dessus je rajoute un enrobage de d'animateur qui fait de son mieux pour être professionnel. Donc je sais pas, ouais, c'est...
Alors ce qui est excellent, on approche de l'heure d'entretien, Léo, c'est que tu nous fais une conclusion pour te trouver. Puis donc on a le plaisir de te retrouver donc, sur Radio Campus 88.1, j'ai tout bon?
C'est ça, exactement.
Presque tous les jours, sauf le week-end, c'est ça?
C'est du lundi au vendredi.
Du lundi au vendredi.
Soit de midi à 14h, soit de 17h à 19h, mais vous pouvez écouter les émissions tout le temps. Et puis un vendredi sur deux à 19h aussi, toujours sur le 88.1 pour l'émission de jeux vidéo qui s'appelle Grostik.
Encore un grand merci Léo donc pour ton accueil et pour cette heure passée ensemble.
Merci à toi.
Et auditeurs, je vous dis à très bientôt. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le faire savoir en lui laissant une belle note ou en le partageant et le commentant sur les réseaux sociaux. Que ces conseils de communication puissent vous être utiles et à vos proches. Je m'appelle David Jadar et vous pouvez me retrouver sur mon site internet lesorales.fr